c'est la figure maléfique du juif tentaculaire, reprend du service.
Les Rothschild, les grosses familles qui dominent quand même les continents.
22% de l'ensemble des Français pensent qu'il existe un complot sioniste.
La France est entièrement sous domination juive.
Comme à chaque poussée d'antisémitisme dans le pays, on assiste à une résurgence de la vieille antienne du complot juif. Récemment, un document interne d'une grande banque française estimait que la banque Rothschild contrôlait à elle seule la quasi-totalité des banques centrales du monde. C'est l'un des visages de cette idée selon laquelle le peuple juif aurait secrètement noyauté toutes les structures du pouvoir, qu'ils soient financiers, économiques ou politiques, et tirerait les ficelles dans l'ombre. Alors quand on pense mythe du complot juif, on pense immédiatement au faux livre qui a structuré l'antisémitisme au XXe siècle, le protocole des sages de Sion. Mais cette théorie du complot remonte bien avant le XXe siècle. On trouve ses racines dès le Moyen-Âge. Bonjour Marianne Matar-Bonucci.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8, spécialiste de l'antisémitisme et des fascismes. Alors peut-être pour commencer, une question simple, est-ce qu'il existe un complot juif ?
Non. Ce mythe, car c'est un mythe, se met en place probablement à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle. Mais la thématique du complot, avec tout ce qui est associé à l'idée de complot, l'idée de duplicité, de trahison, est bien antérieure. On peut en effet la faire remonter au Moyen-Âge, au XIIe siècle, mais on peut même la faire remonter aux premières accusations. Je pense à l'accusation de déicide, qui effectivement repose sur une idée déjà transformée par rapport à la réalité, suivant laquelle ce sont les Juifs qui auraient été à l'origine de la crucifixion, alors que la Palestine de l'époque était sous domination romaine, que Jésus lui-même était considéré comme le roi des Juifs, hein, il a été crucifié comme cela. Donc la falsification du réel est un élément très ancien dans les accusations anti-juifs. À partir du XIIe siècle, se développent des accusations, alors aux reproches habituels d'ordre théologique, s'ajoutent des accusations irrationnelles du type les juifs, lorsqu'il y a des maladies, empoisonnent les puits, ou plus encore, les juifs sont les auteurs de crimes rituels d'enfants assassinés dont on veut utiliser le sang pour différentes pratiques rituelles, comme par exemple la fabrication du pain azim. Cela ne repose évidemment sur même aucun soupçon de réalité, et ces accusations apparaissent souvent lorsque les princes ou certains souverains ont besoin de se débarrasser des juifs pour confisquer les biens d'une petite élite au sein des juifs pour des raisons financières.
Et alors justement, à quand remonte ce lien qui est fait entre le complot juif, ou en tout cas le peuple juif et son lien avec l'argent ? Parce que ça aussi, ça remonte à avant le 19e, 20e siècle.
Ça remonte effectivement à l'époque du Moyen-Âge, parce que l'Église interdit disait aux chrétiens les professions liées au commerce de l'argent, à l'usure, et comme d'autres professions, beaucoup de professions étaient interdites aux juifs, notamment la possession de la terre, ceux qui avaient réussi à s'enrichir par d'autres activités se sont effectivement investis dans ce qu'on a appelé l'usure.
C'est-à-dire donc, les prêts avec intérêt.
Le prêt avec intérêt, mais ils n'étaient quand même pas les seuls en dépit des interdictions de l'Église. Simplement, c'est eux qu'on désigne comme étant les seuls coupables.
À l'époque moderne, comment se structure cette idée du complot juif dont on va voir que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, elle sous-tend vraiment le discours public. C'est un mythe qui est très très répandu en fait.
Ce qui joue un rôle bien évidemment très important, c'est la Révolution française, car par ce raisonnement spécieux, parce que les Juifs vont bénéficier de la Révolution française en 1791, car ils sont émancipés à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils vont acquérir les mêmes droits que les non-Juifs, on leur attribue la responsabilité de la Révolution française. Alors pendant longtemps, c'est la thèse du complot maçonnique qui va prévaloir, avec des textes comme ceux de l'abbé Baruel, où l'on attribue absolument aux sociétés secrètes, donc la responsabilité de la Révolution. Mais à partir des années 1860-1880, s'ajoute l'idée du complot juif et ça devient le complot judéo-maçonnique. Et donc, dès ce moment-là, se met en place un antisémitisme politique qui est redoublé par un antisémitisme social, car on prête aux juifs aussi, donc désormais, l'idée d'être à l'origine du capitalisme, en particulier du capitalisme financier, par le recyclage de cet ancien mythe qui est précisément celui du juif qui aurait un lien privilégié avec l'argent.
Et comment est-ce qu'on explique la pénétration de ce complot, de cette théorie complotiste au sein de la société? Pourquoi est-ce que ça s'est diffusé autant?
D'abord parce que la culture catholique a été très prégnante sur les sociétés européennes et la matrice de l'antisémitisme et des accusations est bien là. Ensuite, parce que les sociétés et les États, à différents moments, ont persécuté les juifs, d'abord comme religion minoritaire, ensuite comme minorité au même titre que d'autres minorités. Il y a un proverbe qui dit que quand on veut noyer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Et donc, une des meilleures façons de justifier ces persécutions, c'était d'attribuer aux juifs donc des pouvoirs exorbitants. Ce qui va aussi jouer un rôle très important dans la diffusion de ces stéréotypes, c'est un texte, les protocoles des sages de Sion, qui est un faux donc antisémite
au début du XXe siècle,
qui est forgé donc en 1903 dans des milieux en rapport avec l'Okhrana, donc la police secrète politique de l'empire tsariste donc, et à partir de 1920-1921 il est établi que c'est un faux. On a la source du texte en question qui était un texte français qui datait du XIXe siècle, un pamphlet anti-bonapartiste, peu importe, mais le fait que la vérité ait été établie à ce sujet n'empêche que les antisémites et les États qui vont pratiquer des politiques antisémites utilisent donc ce brûlot pour répandre donc l'antisémitisme au sein des sociétés quand ce n'est pas déjà le cas. Après le mythe du complot judéo-maçonnique, là le mythe s'étoffe avec une pseudo-explication d'un plan coordonné qui serait dirigé par un groupe d'individus à travers notamment la finance juive d'un côté, les révolutions de l'autre, pour saper les fondements de la civilisation européenne.
On aurait tendance à penser qu'après l'Holocauste, après la Shoah, la Seconde Guerre mondiale, finalement ce complot juif serait réduit à néant par l'ampleur de la catastrophe et du drame historique qui a été à l'œuvre. Ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas. C'était une hypothèse optimiste qui probablement ne prenait pas en compte, je dirais, l'inertie des préjugés, des codes culturels, des référentiels culturels, et tous les stéréotypes à propos des juifs ont été véhiculés, donc on l'a dit, par des textes politiques, mais aussi par la littérature, par des représentations, et je crois que c'est à tout cela qu'il faudrait précisément s'attaquer. Ensuite, le mythe du complot a trouvé donc de nouveaux avatars, de nouvelles formes, par exemple autour du négationnisme, avec l'idée que les juifs, au fond, ont inventé la Shoah pour se poser en victime une nouvelle fois et pour justifier la création de l'État d'Israël, alors qu'il suffit de rappeler que celle-ci était déjà à l'œuvre avant même la création de l'État d'Israël après la Seconde Guerre mondiale. Voilà un exemple parmi d'autres des nouvelles transformations donc de ce mythe fondamental.
Merci beaucoup, Marie-Anne Matar-Bonucci. Je rappelle que vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8 et spécialiste de l'antisémitisme et des fascismes.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.